Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Hip Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question.
Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 8e épisode de Hip Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question. On explore la culture hip hop sous tous ses aspects. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, auditeurs, auditrices, b-boy, b-girl, fly girl, fly boy. Avec moi ce soir pour une discussion qui sera sans doute aussi riche que les précédentes, j'ai Chouchina.
Yeah, comment vous allez?
Bah écoute, ça
avec cette
va.
Chaleur.
Non mais, me lance pas là-dessus.
Elle nous a fait une rêve tout à l'heure, en off. Franchement, elle nous a parlé de...
Jungle Fever de Spike Lee.
Et elle a cru qu'on a... elle s'est crue dans le film aujourd'hui.
Ah ouais, non mais vraiment, ceux qui ont vu le film me comprennent. Ceux qui savent, savent.
T'inquiète, on te comprend.
Ouais, bon, voilà.
Avec Gator.
Et l'équipe est en version réduite aujourd'hui. On embrasse Huguette, on embrasse Fiona, on embrasse Maristan. Et on espère qu'elles se portent toutes les trois bien. Et vous avez entendu déjà un de nos invités. Je vais les présenter rapidement avant qu'on parle un petit peu de l'actu, de ce qu'on a fait ces derniers temps depuis la dernière émission et de revenir à une présentation plus étoffée. Mais donc déjà, rapidement, vous avez entendu la voix de Souleymane.
Oui, bonjour, bonsoir à tous. Merci pour l'invite.
Eh bien, avec plaisir, Souleymane. Et à côté de lui, il y a Amadi. Bonsoir, Amadi.
Bonsoir à toutes et à tous. Même chose, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là.
Plaisir que tu sois là. Tous les deux sont ici parce qu'ils sont organisateurs du salon littéraire Auteurs en Lumière qui aura lieu ce week-end. Voilà.
Exactement. Troisième édition. Consacré du coup cette fois à la culture hip-hop.
Exactement, un focus sur la culture hip-hop qui nous plaît à Hip-Hop 360. Et on a également avec nous Will. Bonsoir Will.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue, merci pour l'invitation.
Toujours un plaisir. À côté de Will, il y a Joko.
Bonsoir, apparemment, merci pour l'invitation et content d'être là ce soir avec les confrères.
C'est ça. Le monde des petits.
Bouquin, et puis nous, avec l'association Spot 13.
Voilà, effectivement. Donc, ils sont là, Will et Joko, pour représenter l'association Spot 13, dont on parlera plus en détail. Mais donc, avant ça, on voulait juste revenir sur deux, trois petites actus. Donc, moi, notamment, je suis allée voir l'exposition Beyond the Street mardi. C'était l'ouverture, elle était assez attendue dans le sens où ils ont fait une grosse promo. Je crois que si vous prenez le métro, c'est impossible que vous ne soyez pas au courant de...
Ah voilà, tout le monde est au courant, je crois.
Voilà, c'est un petit peu partout dans Paris. Moi, je partais un peu avec un a priori très sceptique.
Je fais une petite dédicace à Checo, qui fait partie des artistes qui sont là-bas, et c'est un ancien de mon quartier, et que j'aime beaucoup, donc je lui passe le big up. Big up, Checo.
Alors, donc je partais avec un a priori qui était plutôt un avis réservé, parce que déjà le titre, Beyond the Streets, bon, moi je suis plutôt culture graffiti, culture Goethe, et voilà. Mais venons-en tout de suite au fait que finalement, j'ai plutôt changé d'avis dans le sens où l'exposition est quand même extrêmement riche. Déjà, il y a beaucoup de choses à voir. Ça nous a pris énormément de temps pour faire le tour de toute l'exposition. Bon, après, moi, j'étais le jour du vernissage, donc il y avait aussi quelque chose d'assez incroyable, c'est que beaucoup d'artistes étaient présents. pour cette première. Et bon, notamment, voilà, j'étais en mode fan à un moment donné, je dois l'avouer, parce qu'il y avait Taki 183 qui était là. Et en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Taki 183, c'est un des pionniers du graffiti new-yorkais. Et bon, il est très connu aussi parce qu'il a été pas mal immortalisé dans beaucoup de photos de cette époque-là. C'est pas le seul, j'en discutais avec... avec un autre graffeur justement qui disait oui, il y avait Taki 183, mais il n'y avait pas que lui. Effectivement, mais bon, en tout cas, il était là et j'ai vu quelques graffeurs très connus français qui sont allés eux aussi en mode fan se faire signer leur black book et je les comprends tout à fait. Donc voilà, il y avait un côté quand même assez, assez chouette de voir ces artistes qui étaient là. Et puis bon, comme je le disais, c'était très riche, il y avait beaucoup de choses à voir. J'ai beaucoup aimé un endroit où il y avait des polaroïdes d'une artiste photographe qui s'appelle Marie-Paul, qui mettait vraiment dans le contexte de la culture du New York du début des années 80. Et puis après, il y avait beaucoup de graffiti que moi, j'ai bien aimé. D'autres choses qui m'ont moins parlé. Il y avait une reconstitution de la devanture du magasin de Dan de Ticarette qu'on a reçu le mois dernier. Donc, quand j'ai croisé Dan, il était plutôt content d'avoir... Ça lui convenait, la manière dont ça avait été fait. Donc voilà. Et puis, après, bon, j'ai eu un coup de cœur aussi pour le graphe de Bando, parce que, bon, bah, Bando, quoi. Mais donc, plutôt un avis positif sur cette exposition. J'aurais même envie de vous dire, allez-y. C'est à voir.
Là, je devais y aller au vernissage aussi, mais j'ai fait le papy, je suis resté chez moi, j'avoue.
C'est bien vendu, en tout cas.
Ouais, c'est bien vendu, ouais. Bon, c'est 15 balles l'entrée, je crois, quand même. Je crois que c'est 15 balles l'entrée.
Est-ce que ça les vaut ?
Faut préciser, hein.
Ouais. Est-ce que ça les vaut, sur le coup
Alors... peut-être que ça mériterait tout un épisode, mais peut-être aussi que finalement ça va dans la continuité de notre thématique du jour, c'est que les expositions coûtent de plus en plus cher à Paris. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça les vaut 15 euros ? Je dirais que oui, dans la mesure où on peut voir vraiment beaucoup d'artistes au même endroit. Ça occupe la grande halle de la Villette, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, mais du coup, merci, tu me donnes l'occasion de faire la précision. C'est, l'exposition, elle a lieu à la grande halle de la Villette. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la grande halle de la Villette, c'est un espace immense. Qui est immense. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est sur deux étages, ça occupe toute la halle, pas juste une partie, vraiment toute la halle. Donc, oui, moi, je dirais que ça les vaut. Voilà.
Ok. Est-ce que ça va parler autant aux puristes qu'aux novices ?
Oui.
Ok.
J'ai pas parlé du mur avec tous les tags aussi.
Avec toutes les signatures.
Toutes les signatures des artistes présents, mais aussi des photos d'anciennes signatures. Il y a des facsimilés d'affiches de soirées de l'époque.
Spoil pas.
Ah ben après il y a deux parties prises. Soit tu as envie de savoir pourquoi y aller, soit tu veux pas du tout savoir, tu vas par confiance. Si tu veux que je te convainque, je te dis tout.
Non, tu me convainques pas.
Après, c'est pas que graffiti. Je crois que c'est street art aussi. C'est voilà. Un peu le mélange de la tambouille. Ouais,
c'est toujours
la même chose.
C'est le piège.
C'est le piège. Du coup, est-ce que quand même, y a des Mickey tagués, tout ça, avec les trucs comme ça ou pas ?
Bah, moi, je trouve que justement, on peut trouver ça bien. Mais moi, je reste fidèle à la vieille école où qu'on avait hôpital éphémère, ouais. Avec des artistes. C'était vraiment, on se retrouvait vraiment dans les ambiances à l'américaine, avec les taggeurs, les graffeurs, qui prenaient possession du lieu. Et c'était eux. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant de participer financièrement à leur évolution. Là, aujourd'hui, ouais, ça permet à travers le graffiti de permettre au street art d'avancer. Pour moi, le street art, c'est un fourre-tout.
Grave.
C'est la foire-fouille. Et aujourd'hui, ben, ça permet à qui se prétend artiste de rue. Qu'est-ce qu'un artiste de rue, déjà ?
De ouf.
Le graffiti, le tag, c'était aussi un moyen de dire « Hey, je suis là, j'existe, mec. T'as vu ? On va se faire une guerre, on va montrer qui existe le plus, qui est plus à s'afficher. » Et c'était pas à la complaisance de Salut, je suis street artiste. Ah, je fais de l'illégal. Non, c'est illégal. Et les gens qui faisaient ça, c'est des gens qui n'existaient pas et qui n'avaient pas moyen d'exister. Il y a des acteurs qui ont participé sûrement à l'événement, qui méritent d'être mis en avant. Après, autour, à savoir combien de temps, si ça fait 2 ans, 3 ans, ou parce que la mode du street art est arrivée, donc maintenant les gens font du street art. Moi, ils n'ont pas de valorisation, ces personnes-là, parce que moi-même, qui je ne me considère même pas à la hauteur de ceux qui le pratiquent réellement, même si je dessine et je me considère comme dessinateur, plus qu'un graffeur, un tagueur, parce que quand on regarde le travail accompli par ces artistes qui n'ont pas eu de subvention et qui aujourd'hui, il y a de la récupération et que d'autres récupèrent toute la gloire de ça, c'est un peu comme toutes les cultures. On va voir qu'au fur et à mesure que l'underground fait jaillir où il y a un truc qui émerge de la rue, elle va être récupérée. Et les vrais acteurs, ceux qu'on doit avoir en conférence, qui nous racontent en fait leur vécu et le travail artistique, parce qu'ils n'ont pas suivi d'école pour réaliser ces superbes fresques. Aujourd'hui, on a des diplômés, des gens qui ont Internet et qui, du jour au lendemain, en ayant une casquette à l'envers et des baskets, se disent artistes de rue.
On est presque rentré dans le vif du sujet.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Il a mis les pieds dans le plat.
Il ne nous laisse même pas le temps d'introduire le sujet.
Exactement. Mais c'est pas grave.
Il y a trop de mal autour de la table, en fait.
Il n'y a pas de problème. C'est à l'image de l'ambiance bouillonnante de ces jours de canicule. Mais pour répondre quand même à ce que tu es en train de dire, il ne faudrait pas faire un procès d'intention sans avoir vu l'exposition. Je cite juste quelques artistes. Mais avant de citer les artistes, je vais dire que moi, justement, la réserve que j'avais en allant voir ça, c'était de me dire, ils mettent quelques têtes d'affiche, par exemple, Mode 2, Crash, Futura 2000.
Mode 2.
Oui, Mode 2. Moi, j'aime bien dire Mode 2 parce que, désolé, mais bon, ok, allez, je vais le dire comme vous voulez. Mode 2, Crash, Zephyr. Il y avait quelques autres noms que j'avais vus sur l'affiche avant d'y aller. Je me suis dit, ok, ça vaut le coup. Mais bon, j'ai cité Bandeau tout à l'heure.
Chuck Too
qui fait.
Ouais, des gens
qui
très, en très
est...
bien.
Voilà, donc j'ai croisé Marco aussi, Marco 93 dans l'expo. Je le vois pas dans la liste. Il y a Nassi aussi qui est dans la liste. Bon, voilà, c'est a priori, je pense, des personnes dont on peut pas dire qu'elles ont pas une légitimité par rapport à ça. J'avais la crainte que justement ce soit comme on a pu voir des expositions où on attire sur quelques noms et puis au final, il y a 2-3 graphes et puis le reste, c'est du street art. Et là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire plein de guillemets. Et en fait, non, il y a quelques artistes où effectivement, ça ne m'a pas trop parlé. Je ne voyais pas trop qu'est-ce que ça pouvait faire là. Mais pour l'essentiel, c'était vraiment pour moi une exposition graffiti. Donc... Je pense que le mieux, c'est que tu reviennes nous en parler quand t'auras vu l'expo.
Elle
te paye l'entrée. Elle a
il n'ira pas.
J'irai pas.
T'iras pas.
Non, en plus, moi, je veux dire, honnêtement, il y a des gros noms. Si c'était leur événement à eux, ça aurait été monté autour d'eux avec une magie un peu entraînante. Oui, j'y serais allé, mais après, je vais y aller. Je ne vais pas me retrouver à ma place parce que c'est devenu boboisé. Qu'il y a des gens qui ont des prétentions. Moi, je le vois avec le spot 13. J'ai construit. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent...
Ne spoil pas.
Ouais, je ne spoil pas.
Bon, on va clore sur, Beyond the Street.
Parce que sinon, il se lâche.
Tes propos, Djoko.
On poursuivra cet échange.
Attention,
elle
est maître en la matière pour couper.
Tu mets du feu sur le feu.
C'est ça. Je lance le truc et puis après, ne vous inquiétez pas. Exactement. J'adore faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus juste après. C'était juste pour faire une petite recension quand même de cet événement. Et comme on a déjà passé beaucoup plus de temps que prévu là-dessus, je vais juste faire une mention spéciale sans trop développer sur le spectacle de restitution de la JD School auquel j'ai assisté il y a quelques semaines maintenant, que j'ai trouvé vraiment chouette. Donc, comme on avait Bruce en début d'année qui est venu nous parler du Juste Debout, et notamment de la Juste Debout School, voilà, je voulais faire un petit big up à toute l'équipe de la Juste Debout School qui fait vraiment un super travail. Voilà, et ceci clôt donc cette première partie.
Allez à la Villette, hein, allez voir le... 15 euros, c'est pas cher.
C'est 15 euros.
En fait, on va mettre une censure sur Djoko à chaque fois qu'il parle. On va faire bip.
C'est l'assiette au grec. C'est l'assiette.
Avec une boisson, des fois.
Avec l'inflation, c'est à peine un grec. Et ben donc, on va pouvoir lancer le début de l'émission avec un petit jingle.
DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox.
Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet de cette émission. Petite présentation. Le hip-hop, à la base, c'est une culture qui crée ses propres espaces. Un rue devient une scène, un mur devient une galerie, un parking devient un dance floor. Mais contrairement à certaines idées reçues, le hip-hop ne s'est jamais développé uniquement à côté des lieux traditionnels. Dès les années 80, des hip-hoppers fréquentent des clubs très sélects, comme le Palace à Paris ou le Studio 54 à New York. D'ailleurs, le Studio 54, c'était même dès les années 70. Investissent des lieux artistiques reconnus et des graffeurs exposent déjà dans des institutions comme le MoMA, toujours à New York. Le hip-hop a donc toujours circulé entre plusieurs mondes. La rue, les clubs, les centres culturels, les galeries et certains festivals. Mais la question de l'accès reste centrale. Parce que quelques artistes qui arrivent à franchir certaines portes, et la majorité de celles et ceux qui cherchent simplement un endroit pour créer, montrer leur travail ou rencontrer un public, il y a souvent un énorme écart. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment créer des espaces ouverts? Comment permettre à des artistes émergents d'exister, sans forcément avoir les bons réseaux ou les bons codes? Comment garder l'esprit hip-hop, tout en ouvrant la culture au plus grand nombre? Et justement, comment fait-on pour que toutes et tous se sentent à l'aise dans les lieux culturels? Aujourd'hui, on va parler de ces lieux qui permettent aux artistes de se rencontrer, de se montrer, de transmettre, et parfois même de trouver leur place dans la culture, et aussi au public de découvrir ces artistes. Et pour ça, on reçoit des invités qui, chacun à leur manière, fabriquent ces espaces. Voilà pour la petite introduction que je souhaitais faire sur notre émission. Et comme on a présenté très succinctement nos invités, mais qu'ils ont déjà bien eu envie de s'exprimer,
même
je
vais laisser... Voilà, enlever le mic.
je propose que Shushina nous permette d'en savoir davantage sur ses invités.
Ok. Alors ce soir, je vais commencer par reprendre les lyrics de la rumeur. Nos histoires méritent aussi d'avoir un lieu. Donc aujourd'hui, dans Hip Hop 360, on reçoit donc deux invités, mais au final, ils sont quatre, qui représentent deux générations, mais surtout deux façons de reprendre l'espace à travers la culture hip-hop. Quand je parle de génération, c'est au niveau de la vision. Parce qu'avant d'être dans les boutiques, comme tu l'as dit, dans les galeries ou dans les institutions, le hip-hop, lui, il est né dehors, dans les rues, sur les murs, dans les quartiers, où personne ne regardait vraiment ce que les jeunes étaient en train de créer. Comme disait Ayam, on vient de l'ombre pour aller vers la lumière. Et justement, nos invités ce soir, ce sont des gens qui créent de la lumière là où, à la base, personne ne regardait. D'un côté, il y a Djoko, graffeur parisien, pur produit de la culture hip-hop depuis ses prémices, quelqu'un qui a grandi avec ses codes, ses valeurs, son histoire. Une époque où peindre un mur, ce n'était pas pour faire joli sur Instagram, c'était pour exister dans la ville, dire « nous aussi on est là ». Après son passage à la galerie Street Art, Lavomatique, mais ça il vous en dira un peu plus tout à l'heure, il décide de créer Spot 13. Une galerie à ciel ouvert, posée sous le périph' parisien dans le 13e, un vrai spot de vie où les graffeurs, les rappeurs, les DJ, les danseurs... Les familles, les jeunes du quartier se croient sans avoir besoin de connaître les codes des lieux culturels dits classiques. Et ça, c'est important pour lui, parce que Djoko, il défend une vision très pure de la culture hip-hop, une culture faite par les gens du terrain, pas par ceux qui parlent au nom du hip-hop sans jamais l'avoir vécu. Comme il le dit lui-même, on ne nous considère pas si on ne prend pas de place. Et Spot 13, au fond, c'est exactement ça. reprendre l'espace public et lui redonner une âme. Et comme le rappeur Rosé, on n'est pas là pour décorer, on est là pour raconter. Et puis face à lui, il y a Amadi Guéla. Autre génération, autre support, mais exactement la même énergie. Il est aussi un pur produit de la culture hip-hop depuis ses prémices, qui a aussi grandi avec ses codes, ses valeurs, son histoire. Mais lui, son terrain d'expression, c'est l'écriture. Auteur du roman de béton et de plumes et créateur du salon Auteur en Lumière, il met en avant des auteurs issus des quartiers populaires, des voix qu'on entend trop peu dans les grands salons littéraires dits traditionnels. Parce que beaucoup d'espaces culturels, il y a encore des gens qui ont l'impression que ce n'est pas fait pour eux. Et Amadi, lui, il casse ça. Il crée des espaces où les récits des quartiers, des diasporas, des cultures populaires deviennent centraux. Des espaces où les gens peuvent venir sans avoir l'impression de devoir changer leur façon de parler, de penser ou d'être. Comme disait Cazet, j'écris parce qu'on nous ne raconte jamais correctement. Disons que la chaleur aujourd'hui me fait bégayer. Et au fond, c'est ça qui relie nos deux invités ce soir. Le mur pour l'un, le livre pour l'autre. Mais la même mission, créer des lieux où les gens se sentent légitimes d'entrer, de créer et de prendre la parole. Comme le disait Oxmo Puccino, les murs ont des oreilles, les rues ont des âmes. Et ce soir, avec Djoko et Amadi, on va parler de ces espaces qui donnent encore une âme à la culture hip-hop. Bienvenue dans Hip-Hop 360.
Merci à toi, merci à toi.
Merci.
On va développer. Merci.
J'adore. On va développer.
Et puis, je tiens à ajouter, je ne suis pas venu tout seul. Hein. Je suis bien accompagné.
Oui, effectivement. Ils ne sont pas venus tout seuls, mais sur le coup, je vais laisser vos deux acolytes, sur le coup, se présenter en même temps que vous un petit peu plus.
Yes, aye.
Pour la petite... Effectivement, pour préciser, voilà, les choses se sont faites un peu en mode freestyle.
Hip-hop.
Et c'est voilà, ça, le hip-hop.
C'est hip-hop freestyle. Et c'est... Venez seulement, c'est l'esprit de l'émission. Si on veut venir tout seul, on vient tout seul. Si on veut venir avec son poteau, il n'y a pas de souci, ça enrichit la discussion. Mais c'est vrai que comme au départ, on n'avait pas en tête qu'il y aurait d'autres invités, on n'a pas pu préparer ça comme il se doit, mais on va réparer ça en live and direct.
Tranquille, on va gérer.
Voilà.
direct, vas-y. Enchaîne.
Pour pouvoir commencer et introduire la présentation... On a un confrère.
Exactement.
En la personne de Souleymane.
Du coup, je suis Souleymane Boel. Je suis écrivain, scénariste et auteur de plusieurs ouvrages déjà publiés. Je suis aussi animateur de deux émissions. Une à Radio Fréquence Paris Pluriel qui s'appelle La Plume des Quartiers pour mettre en avant justement et en lumière en fait, des auteurs qui viennent de quartiers populaires. Et aussi une émission à Montfermeil dans le 93. Qui s'appelle le Don't Give Up Show, où en fait c'est un talk show où on reçoit des personnalités pour inspirantes pour justement pour ouvrir des volets sur différentes personnalités, voilà.
Sur quel média ça du coup?
Sur Radio TV Kardeş. C'est un média turc où il y a 70 émissions et nous on a une émission en langue française.
Ok, merci pour cette présentation. Voilà, première présentation succincte et assez humble, je pense, parce que je crois deviner que tu es ça et bien plus encore.
Il y a de la matière.
On sent qu'il y a de la matière.
Te dire, on développera au fil de l'émission.
C'est ça, exactement. À toi, Will. Dis-nous un peu plus sur toi.
Moi, c'est Will. TPK, JLM, c'est le début de mon nom de famille. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est que je me considère pas comme un artiste peintre. Je suis plus dans un concept de vandale avec de la peinture. Et je pense qu'on fait de la sociologie à temps plein à partir du moment où on est dans un certain milieu comme le hip-hop et qu'on est un peu investi dedans. Ça devient un peu de la sociologie plus que des connexions. Comme le feraient des collègues de travail.
Yes.
Oh là là, il ne met pas la pression de ouf avec une présentation pareille, le gars. Magnifique, j'adore.
Je me suis préparé à arrêter.
Ça sent la préparation, je te jure. Non, c'est beau, on fait de la sociologie à temps plein, mais c'est magnifique. Oh là là, j'attends une émission de qualité avec des gens qui savent se présenter de cette manière-là. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Là, je sens que vous êtes prêts à en découdre sur la thématique qu'on vous a proposée. Du coup, j'ai presque envie de commencer de manière un petit peu provocatrice. Pourquoi, à quoi servent vos événements? Pourquoi
visibiliser?
Pourquoi vous êtes là?
Visibiliser les gens qui ne le sont pas. Déjà, dans un premier temps, pour répondre à ta question.
Donc, Souleymane, co-organisateur de Hauteur en Lumière,
oui,
Salon
voilà,
littéraire.
C'est ça. Après, on le fait aussi avec Mariam Sec de l'Abri des Mots pour cet événement-là. L'idée, c'était de... On s'est rendu compte qu'en faisant les émissions, bah, y avait beaucoup de gens qui étaient boycottés, surtout des gens de basse classe. Et puis, généralement, ils faisaient vraiment des choses très intéressantes, mais il n'y avait pas de visibilité. Donc en gros, on s'est rendu compte que le milieu de littéraire, comme le milieu du cinéma, c'est un milieu qui est très fermé en fait, avec des gens d'un certain milieu, et qu'à partir du moment où on vient d'un quartier, ben ils nous boycottent un peu. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ce qu'il y a, c'est que nous on veut faire du cinéma, mais qui raconte des vraies histoires, et aussi des choses aussi qui sont intéressantes à raconter. Donc par rapport à certaines... Pour répondre à ta question, ces événements-là, en fait, d'où le nom du Salon du Livre, Auteur en Lumière, il sert à mettre en lumière des plumes émergentes ou des artistes émergents pour leur donner en fait, leurs droits, en fait, pour les faire sortir du dark, en fait, tout simplement.
Ouais, est-ce que... Joko...
Bah, moi, je suis assez d'accord avec lui, parce que... quand on regarde... le point de vue de certains qui sont les métronomes de l'art, du bien-pensant et autres, nous, on a envie de leur donner de la visibilité, montrer aussi que quand on organise des événements, contrairement à ce qu'on en renvoie comme image de personnes sauvages, ne pouvant pas avoir de bons comportements, et parce qu'on ne danse pas la gigue ou la valse, et qu'on break et qu'on danse, qu'on ne peut pas être bienséant alors qu'on a une éducation, et que notre modèle de vie, notre culture, notre style vestimentaire nous appartient, et qu'à un moment donné, moi je réalise que pendant une époque, on était mal vu, on ne pouvait pas rentrer dans certains endroits, et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un public, parce qu'il y a quelque chose de commercial, hein, il y a de l'argent derrière, c'est récupéré. Hein, je vais pas nommer des radios que je connais depuis mon enfance qui passaient
si, tu peux nommer
voilà, moi Skyrock, excuse-moi, tu passes du rap,
tu tapes
du rap, mais regarde-toi dans la glace, D-Fool, moi je sais pas, je regarde des rappeurs qui vont là-bas, ça me fout les boules, parce que pour tous ceux qui sont derrière, qui les ont soutenus, pour tous les artistes qui sont là où ils sont, ils oublient que ceux qui leur a donné quelque chose de la valeur, c'est des gens de la rue. Donc quand moi, par exemple, avec Spot 13, et avec l'idée des frères qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, les TPK, les GLM, avec qui on a construit ça, il y a d'autres crews aussi, hein, les GB, qui... tout le monde a participé, on essaie de se réunir, et là, par exemple, le 30 mai, on se réunit, mais pour passer un bon moment. Et on est ouvert à tout le monde. On n'est pas fermé comme ils veulent nous montrer, genre on est misogyne, on est ci, on est ça. Non, on se mélange, il y a des enfants, il y a des familles, il y a tout le monde.
Si j'essaye de faire gratuit. Un parallèle... avec ce que disait Souleymane, est-ce que est-ce que c'est né l'ouverture du Spot 13, est-ce que c'est né d'un besoin aussi d'avoir un espace pour les artistes,
oui,
pour pouvoir s'exprimer, parce que si je me fais un peu l'avocat du diable, j'ai l'impression que puis en plus on est dans le 13e arrondissement, du graffiti il y en a partout.
On va dire que quand même on a la chance d'avoir un maire qui est intéressé par l'art, hein, Jérôme Coumet, et qui nous soutient, et avoir un espace en plus qui appartient déjà depuis le départ, le périphérique, c'est pas les street artistes qui vont peindre sous le périphérique, c'est du graffiti, ça correspond à la culture, on va pas dénaturer quelque chose qui a déjà une âme, et donc donner place, moi j'ai pas m'habiller en je sais pas quoi, en l'autre là, pour faire ce genre... j'élève mon niveau, je vais donner une image à des gens. Non, je porte des baskets, je mets une casquette, j'ai des discussions marrantes avec mes potes qui ne correspondent pas aux discussions des autres. On a une vision de la vie qui est différente et artistique qui est différente. Maintenant, bien évidemment, on est ouvert à tous. Mais Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est du partage. C'est du partage à la base. On essaie de donner notre avis, de communiquer, d'échanger. Dans les quartiers, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ben, on retrouve dans l'art actuel, parce que je vais dire ça, mais du beau pour du beau. Moi, ça m'y... je vois quoi, un beau visage sur un mur. Alors que quelqu'un qui fait un lettrage, déjà, je suis là, je dis, oh, c'est lettrage sur mon t-shirt, y a, tu sens le rythme hip-hop, et puis la récupération de notre espace public. C'est important, parce qu'aujourd'hui, notre espace public ne nous appartient plus. On est en bas de chez nous, on est posé, on vient nous voir, on nous dit, hey, qu'est-ce que vous faites là contre l'identité ?
C'est ouf.
On n'a rien. On n'a rien. Il y a des jeunes qui sont là, on n'a rien, et on se plaint. Donc aujourd'hui, il y a des gens, des jeunes qui ont des idées. Nous, avec le Spot 13, on donne la possibilité de venir faire les tournages en respectant des règles. On leur demande de participer légèrement financièrement, mais pour leur montrer comment le monde fonctionne aussi au départ, parce que tout a un coût, tout a un prix, et nous aussi, on travaille pour que le lieu soit accueillant. Et on donne la possibilité à des personnes qui organisent des événements. Il y a même des voisins qui cherchent un lieu pour faire un barbecue. On a l'espace, on leur offre la possibilité de profiter de l'espace, de partager quelque chose. Et surtout de revenir à l'esprit, à l'âme du quartier, c'est quand on apprend à se connaître, on est tous de la même famille.
Aujourd'hui, finalement, sur le Spot 13, c'est un espace, on peut dire géographiquement, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait et que vous avez animé. Quand on, pour ceux qui connaissent l'endroit qui le visualise, sous le périph, effectivement, ce n'est pas un lieu où il y avait tant de choses que ça. Mmh. Comment ça se passe? Et puis après, du coup, on posera la même question pour à Madié Souleymane. Comment ça se passe quand, quelque part, on part de rien pour faire venir des gens dans un endroit? Peut-être, Will, toi, tu veux répondre à cette partie-là. Comment est-ce qu'on fait pour, à partir de rien, créer un lieu qui va permettre à des gens de venir s'exprimer? Puisque finalement, c'est ce que tu fais en tant que sociologue.
Il fallait voir ses yeux quand tu lui as posé la question.
Ben en fait, souvent, comme on disait, les galeries, c'était assez select. Donc, je pense qu'en fait, le lieu qui a été ouvert au Spot 13, c'est un peu l'antithèse des gens, justement, qui ont été jetés de tous ces endroits assez select. Et justement, de pouvoir s'exprimer à travers cet endroit. C'est presque justement ceux qui étaient sélects dans ces endroits-là ne le sont pas, ne sont peut-être pas les... On ne va pas dire qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais ce n'est pas ceux qu'on va mettre en avant forcément à l'arrivée. On ne va pas leur sortir un tapis rouge parce qu'ils étaient déjà sélects avant. On va préférer des gens qui sortent de l'underground. Ça se dit encore ?
Ça se dit.
Ça se dit encore ? Ok.
Ouais, tu peux y aller.
Donc ceux qui sortent de l'underground ou qu'on...
Une histoire.
Qui ont une histoire, qui sont peut-être même passés à côté à un moment donné, et on est plus dans ça que d'envoyer un tapis rouge à des gens qui sont déjà sélects partout, quoi.
C'est quoi, du coup, vos critères ?
Être bon.
Être bon dans ce que l'on fait, et puis être vrai, puisque, en fait, nous, même... Allez, moi, je suis le fondateur, mais j'ai pris la... Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pris, en réalité, des murs, mais les vrais acteurs, ce sont ceux qui participent à faire vivre le lieu. C'est chez eux. C'est chez nous. Maintenant, l'autre, je veux dire, Tartanfion, là, qui est une cuillère en or dans la bouche, qui a deux, trois pots de peinture, ou le fils d'architecte qui veut changer de voie et qui a vu qu'il y avait de la lumière dans l'air urbain, qui veut venir, je lui dis, ben non. J'étais là, t'as vu de la lumière, tu te dis, oh, ça fait deux jours, j'ai plus de boulot, je sors de la pub. Il y en a plein comme ça. Moi, je leur dis, bon, ben merci, mais t'as vu la galère. La galère. Est-ce que tu l'as connue, la galère ? De la vie, la famille, on a ceux qui ont construit cette culture-là, les grands, même moi, que j'ai eu, c'était pas facile notre vie avant. Il y a plein de petits frères, on protège nos petits frères pour éviter qu'ils vivent la même vie qu'on a vécue. Il y a des sons, des morceaux qui parlent de ça. Et c'est ce qui nous motive aussi à tenir. Et aujourd'hui, le lieu, il est là pour faire vivre cette jeunesse, ces anciens, qui ont beaucoup à apprendre, beaucoup à donner. Et nous, on a beaucoup à apprendre. On voit beaucoup de jeunes aussi qui viennent, qu'on essaie de guider, parce que, en fait, on leur a vendu une fausse vérité. Et nous, on est censé être là pour leur dire, en fait, t'as vu, le star system qu'on t'envoie, on l'a vu arriver, nous, avec à son âme, Loana, et tout le monde s'est fait avoir. La Starac, ça a été le truc là, comment ça s'appelle, la Secret Story, ça a été le début de tout.
De ouf.
Geek des téléphones.
C'est le début, c'est le début.
Nous, on a tout vu arriver. Le beeper. T'as vu la Starification? On a vu arriver le beeper, on a vu arriver les trucs.
Tam-tam.
Tam-tam
et Tatou.
Tatou.
On a tout vu arriver. Aujourd'hui, nous, on est la génération qui a tout vu arriver. Hein. On a tout pris dans la tête. Aujourd'hui, bah, les jeunes, ils sont noyés là-dedans.
Ils sont perdus.
À 5 ans, j'avais pas une tablette, hein, 5 ans, moi.
Mais ça veut dire, quelque part, parce que d'un côté, tu dis, ces jeunes, ils ont, qui viennent avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'y a pas de. On va pas leur donner d'espace. Non, c'est pas ça.
C'est ce que je veux dire, c'est. Il faut revenir sur des fondamentaux. Il faut savoir, même, comme on dit, d'où on vient pour savoir où on va. Aujourd'hui, les jeunes. On leur donne, même aujourd'hui, le public, on lui donne une version de la culture underground, du hip-hop, du graffiti, des gens qui sont là, qui ont fait des doctorats. Donc, c'est-à-dire, ils sont partis à la fac, à l'université, pour nous étudier et pour ensuite ouvrir des galeries et dire, oui, j'ai un doctorat en graffiti, j'ai un doctorat en hip-hop. Vis un peu la rue, va vivre un peu dedans.
D'accord.
Et okay. Après, développe, oui.
Ouais.
Mais...
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, de manière un peu contradictoire, ils ont construit leur légitimité dans des circuits académiques qui ne sont pas ceux de la culture hip-hop.
On ne va pas les virer pour autant, mais on ne va pas leur sortir le tapis rouge, on ne va pas les faire passer en priorité.
Vous ne les priorisez pas.
Voilà.
Ouais, normal. Okay. Ouais,
c'est ça. C'est exactement ce qu'on dit.
Normal.
Et bah, faisons le parallèle avec la littérature, justement, parce que là, pour le coup, la littérature n'est pas issue de la culture hip-hop. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut se dire qui est-ce qu'on priorise un salon littéraire sur ces questions-là.
Pourquoi ? Attends, moi je veux juste rebondir sur quelque chose et je pense que Amadi va rebondir vraiment dessus. Pourquoi la littérature n'est pas issue
J'arrive.
je l'ai vu et on s'est... Moi je suis pas d'accord, alors, c'est l'écriture. Donc Amadi.
Yes. Déjà, je reprends un tout petit peu ma présentation. Donc effectivement, Joko et moi, on est de la même génération. Et donc oui, j'ai écrit un recueil de nouvelles contemporaines et urbaines qui s'appelle De béton et de plumes, qui est sorti il y a un an à peu près, qui est mon premier ouvrage. Et par rapport à la peinture, je voulais dire aussi que je peins. Joko est au courant. J'ai exposé à l'exposition au festival Hip Hop Dome, 10e édition, organisé par le regretté Batch en 2010. J'ai exposé aussi à l'Écomusée. Voilà, je ne suis pas graffeur, mais c'est vrai que j'ai aussi cette corde-là à mon arc et que ça m'a toujours intéressé beaucoup. C'est tout à ton honneur, Joko, de défendre le graffiti dans sa forme la plus pure qu'elle soit. Et je suis complètement d'accord avec toi. Pour parler de la littérature, donc déjà, la rencontre avec Souliman s'est faite très naturellement. Déjà, je parle un petit peu de notre duo, parce qu'on est tous les deux à organiser ce salon Auteurs en Lumière. Donc, comme son nom l'indique, le but, c'est de mettre en lumière des auteurs qui ne sont pas forcément aidés. Mais alors, pour le coup, c'est comme vous. On ne priorise pas les gens qui vont venir des grandes maisons d'édition, etc. On veut pas les... C'est-à-dire, ça ne va pas être avec eux qu'on a envie de construire au début. Mais on ne s'interdit pas de le faire.
Exactement.
Parce qu'on fonctionne à l'humain et on fonctionne avant tout. Tout à l'heure, tu as dit, il faut qu'il soit sincère et qu'il soit bon. Bah, nous, c'est exactement pareil. La seule chose, c'est qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que Carla Bruni fait des disques. Et dans le métro, il y a des virtuoses qui n'ont pas sorti de disques à la Station République. Tu vois ? Donc, on veut juste rétablir un petit peu
l'équilibre.
J'aime
bien cette image.
Bah ouais, tu vois, il devrait y avoir des permis à points quand tu vas en studio et les points, ils devraient sauter vite fait, en fait. et du coup, avec Souliman, on s'est voilà, je vais pas détailler comment on s'est rencontrés, mais ça a tout de suite collé. Lui, par rapport à son émission, enfin, on voyait les choses vraiment de la même façon. Donc, pour revenir sur Auteur en Lumière, donc nous, on n'a pas la prétention d'avoir créé un lieu. Nous, on a créé un événement qui se veut itinérant. Voilà, donc là, il se trouve qu'on a fait trois versions de notre festival, enfin de notre salon Auteurs en Lumière au même endroit, c'est dans le 19e arrondissement, mais on a vocation à aller ailleurs, à aller en banlieue et à bouger. La première édition, on n'avait pas de thème, c'était vraiment un peu généraliste, c'était notre coup d'envoi, quoi, notre coup d'essai. La deuxième édition, on l'a fait sur la question anticoloniale, et donc là, c'est pareil, on est allé chercher des universitaires, mais qui sont restés dans l'ombre. les gens qui ont fait des thèses ou qui ont fait des doctorats ou des choses, qui ont écrit des bouquins mais qui sont restés un petit peu dans l'ombre, bah parce que voilà, c'est pareil. Tout à l'heure, tu parlais de sociologie, tu as quelques noms qui tournent comme ça, mais la gamberge, il y a plein de gens qui ont une bonne gamberge et qui ont écrit des choses importantes, c'est juste qu'elles ne sont pas posées sur la table. Quoi.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils n'ont pas les, bons, les bonnes connexions.
On est dans un pays extrêmement élitiste. Tu vois, bon, moi, je l'assume. Ouais, ouais, on est dans un pays archaïque. Qui mélange le capitalisme dans sa forme la plus brutale, mais aussi avec l'héritage de la société de classe aristocratique. Ici, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es qui est important. Tu sais, moi, à un moment donné, je me cassais la tête à aller voir les galliéristes et, pour essayer d'exposer. Je faisais des petits livrets, je me cassais la tête, je dépensais du bif et tout, jusqu'au jour où j'ai compris que, là, je parle des galeries traditionnelles, hein, tu vois, voilà. En fait, c'est pas... En fait, le gars qui vient dans une galerie, en fait, c'est un clandos. Parce que les artistes qui cotent, ils ont un agent. Tu vois, mais quand tu as compris ça, tu te casses même plus la tête à aller les voir, en fait.
Donc là,
en fait,
tu donnes un exemple,
en France,
finalement.
On ne regarde pas ce que tu fais. On regarde qui tu es.
Donc là, c'est vrai que finalement, tu donnes un exemple très concret de quand on disait tout à l'heure de ne pas avoir les codes. Quand je disais ça dans l'introduction, c'est un exemple très concret.
Ouais,
ne
des,
pas avoir les codes, c'est ne pas savoir que ça ne sert à rien d'aller dans une galerie. En tant qu'artiste, tu te dévalorises vis-à-vis de la galerie.
C'est le modèle d'ouverture qui est compliqué.
Ah ouais, ouais, faut pas faire ça. C'est toujours ça. Je le dis tout de suite, faut pas faire ça.
Un jeune qui en veut pourra, lui, dans sa lecture,
se dire... Là, on sort du graffiti, on parle d'autre chose.
Non, parce qu'un graffeur pourrait avoir cette démarche-là, de se dire, bah voilà, je suis coté dans le graffiti, j'ai envie d'aller exposer en galerie. Il pourrait se dire, dans son esprit hip-hop, quelque part, de se dire, bah, si jamais je vais dans la galerie, je fais la démarche d'aller les voir et tout ça, ils vont me voir comme quelqu'un de dynamique et qui en veut. Or non, dans leur lecture à eux, ce sera plutôt
le
contraire.
Ça dépend, parce que quand on parle du street art et de toute la récupération qu'il y a par rapport avec ce nouveau consortium, ce boulga qui s'appelle le street art, là, t'as aussi, à contrario, des galéristes qui vont s'intéresser à des taggeurs, à des graffeurs qui ont une grosse expérience du vandalisme, parce que ça les fait fantasmer, en vérité.
Après,
on passe le raid, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr.
Moi, j'étais fan. Moi, par exemple, alors, quand j'étais jeune, Michel-Ange, j'adore.
Bah, c'est bien.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, de notre sens et l'envie de découverte, quand on est banlieusard, on essaie d'aller cet accès qu'on n'a pas. Et c'est là où, de l'autre côté, le problème, c'est qu'eux, ils nous acceptent que s'ils nous modifient à leur image.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être nous-mêmes, alors que nous, on va vers eux, quand on va dans les musées, on prend des gens... Quand on est de banlieue, on a la chance d'aller au Louvre, on découvre des trucs, on se dit « waouh, ça existait, bah, on regarde ça », mais on s'intéresse à l'histoire, parce que l'histoire, c'est ce qui nous permet d'avancer. Même dans les textes où la littérature est importante aussi, parce qu'on a besoin de ces gens qui sont des porte-paroles pour nous. Mais dans l'autre sens, parce que dans Spot 13, on s'ouvre quand même aux autres styles artistiques.
Il faut de la porosité.
Parce qu'il faut qu'on découvre aussi les autres styles artistiques. Donc nous, on fait effectivement du graffiti, on reste fidèle à nous-mêmes, mais on est ouvert aux autres formes d'art.
Alors concrètement, c'est que ça se manifeste par quel type d'événements, d'échanges? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là?
On a des surfaces qu'on laisse plus ou moins accessibles à ceux qui font du street art ou de l'art plus ou moins classique.
Par exemple.
Ouais, on a une salle des pochoirs. D'accord. On n'est pas fermé parce que les gens ont besoin d'apprendre, de connaître les différentes cultures. Et quand on a, par exemple, nous, des événements, on fait un seul événement en dehors de notre jam graffiti.
Yes.
C'est pour la Journée internationale des droits des femmes, parce que je trouve ça important. Moi, j'ai une maman. Je trouve, contrairement...
Tout le monde a une maman.
Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, dans le graffiti, il y a des filles et ça se passe super bien. On est respectueux. Et ça tenait à cœur avec notre équipe, au-delà du féminisme ou tout ça, mais d'avoir une journée pour les femmes dans le graffiti... qui soit une journée d'apaisement et aussi d'apprentissage. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas, de ce que ressentent les gens, comme les graffeurs, les gens d'issue de banlieue, ils ont des souffrances. Je ne cache pas que la première à souffrir dans cet univers, c'est la femme. C'est la première esclave de la planète.
Hein, bien sûr.
Voilà, et tant qu'elle ne sera pas au même niveau égalitaire, le monde ne pourra pas être égalitaire.
Moi, j'aimerais rebondir sur un mot que tu as dit. Tu as parlé d'apaisement.
Ouais.
Pourquoi tu estimes que faire un événement pour les droits des femmes dans ce milieu-là, c'est considéré comme un apaisement?
Parce que Premièrement, on n'a pas l'occasion de pouvoir parler souvent librement. Mmh. Et que là, les filles, quand elles viennent, moi, je leur donne bien évidemment carte blanche.
D'accord.
J'essaie de faire en sorte que, justement, ce soit un moment de rencontre. Il y a des enfants, il y a des parents qui viennent. Et il y a des sujets beaucoup plus compliqués qu'il faut ramener avec douceur pour faire comprendre aux gens la difficulté de chacun. Mais je pense que c'est le même combat. Et donc, dans l'apaisement, dans les échanges, on a un lieu, nous, exemple, ben, les gens ils s'assoient, ils discutent, tout le monde se mélange. C'est multigénérationnel. Et là, il y a toute une émulsion. Mm-hmm. Et c'est vrai que, ben, voilà, on est dans un espace où il y a de... Quand on amène de l'apaisement en plus, ben, on découvre beaucoup de choses.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie pour ce temps-là. Mais pourquoi la réduire uniquement à la journée des droits des femmes?
Alors, je ne leur ai dit pas que...
Attention, on est peut-être que deux autour de la table, mais attention.
On va lever un lièvre. Moi, ça fait longtemps que j'essaie de motiver des filles artistes. Mmh. À monter
des femmes artistes,
des femmes artistes, des filles, excusez-moi pour le
terme.
Ce n'est pas grave, jeune garçon. Mais...
c'est bien, jeune garçon. Moi, ça me plaît, moi. Appelez-moi jeune garçon, je prends tout de suite.
Ah, c'est Roland Garros, là. Ça, je me prends des smashs.
Jeune garçon.
J'invite. Nous, on est là, on est ouvert. C'est vrai qu'on est dans un travail difficile, on n'a pas de soutien, on n'a pas de budget. Mais on a longtemps invité les filles à monter, à organiser une jam. Elles veulent inviter les garçons, elles veulent mélanger, mais qu'elles fassent un événement à leur image, avec le respect des règles, mais c'est pas interdit. Moi, j'ai toujours sollicité les filles à monter un événement artistique, justement parce qu'elles font partie de ces personnes qui n'ont pas, un peu comme nous en banlieue, qui n'ont pas la possibilité de s'affirmer. Et le but de Spot 13, c'est de donner la possibilité aux gens qui n'ont pas la place pour s'affirmer, de s'affirmer, de pouvoir créer des événements et dire aux gens, vous avez vu, on n'est pas méchants. Nos idées, la manière dont on fait les choses. Moi j'aimerais que des mamas viennent faire à manger. Bon, ça fait. Hein,
que ce soit. On va te trouver ça. Voilà,
qu'on fasse un événement. On a un espace, si les gens viennent nous voir, ils ont envie d'organiser une guinguette. Comment ça s'appelle là? Une brocante. on s'organise. Nous, avec Spot 13, on a réussi à avoir un espace privé. On ouvre au public gratuitement. Contrairement à tous ceux qui vont récupérer des lieux. Et qui font payer. Moi, j'ai décidé que déjà, il y a de la transparence, que bien évidemment, je suis le leader un peu du projet, mais ben, des fois, on a des discussions, des désaccords, mais on travaille en équipe. J'apprends grâce à mes collègues, parce qu'ils me soutiennent et qu'ils m'apportent beaucoup, parce que bon, ben, aussi, j'ai un tempérament un peu de commandant et je bosse, mais ils m'apprennent aussi à descendre parce que c'est beaucoup de charges, mais on travaille en cohésion et on essaie de voir le positif, de faire des choses sans déranger les autres et de montrer que ben voilà, ce qu'on fait, c'est un bien pour tous. On essaie de donner une âme au quartier et que ça ne finisse pas comme les constructions qu'on a aujourd'hui. Les habitats, ça ressemble à la défense. Il n'y a rien, il n'y a pas un banc. Il n'y a plus d'espace pour se vider l'esprit. Et là, ben voilà, on est... Excusez-moi de prendre le micro trop...
Mais
on vous attend, mes chères demoiselles, parce qu'on dit demoiselles maintenant, ou dames.
Dame, madame, voilà. Mademoiselle, c'est obsolète.
Moi, je reste mademoiselle. Viens
nous voir avec un beau projet, on te montre ça quand tu veux.
T'inquiète, alors là, rien qu'en t'entendant, j'ai déjà commencé à noter et ne t'inquiète pas, c'est là.
Vous êtes tous témoins.
C'est dans la boîte, c'est enregistré, Chouchina, on pourra te ressortir l'archive. Mais c'est cette prise de parole d'un homme pour défendre les droits des femmes, c'est une parfaite transition pour le petit intermède pour la chronique hip-hop et engagement qui va suivre.
Parlons de nos victoires. Hip-hop. Activisme. Engagement.
Artivisme.
Politique.
Force.
Hip-hop et engagement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un rappeur qui s'appelle Sheldon, qui est membre fondateur du collectif parisien La 175e Session. Étant donné qu'on est dans le 13e arrondissement, je pense qu'on est un peu à la maison quand on parle de La 75e Session. Pourquoi est-ce que je vous parle de Sheldon ? Parce qu'il sort un nouveau projet et que moi, c'est un rappeur que je ne connaissais pas, je dois l'avouer bien humblement. Déjà, Népal, je l'ai connu assez récemment. Et c'est justement sur cette connexion Népal-Sheldon que je suis arrivée sur cet artiste. Et le morceau qui m'a particulièrement touchée dans ce quatrième album qu'il a sorti là au mois de mai, qui s'appelle Les Monstres, c'est le morceau Être une fille, dont on va écouter un extrait.
Nous donner des leçons, mais au bout d'un moment, faut les empêcher. Ouais. Mon genre, il est moche, il est endetté. Ce milieu est dégueulasse, c'est grave gênant. Ratio 4 filles pour 2000 connards. Ils veulent pas qu'on fasse un double des clés qui éclate la porte, devine connard. Mes idoles, ils sont tous homophobes. J'ai dû me construire en marche comme un paria. Mes idoles, ils sont tous misogynes. Leur complaisance est inaudible. Ouais, j'suis pas un exemple, juste j'essaie de faire mon bail autrement. J'ai hâte que mon gamin grandisse, qu'il dise que son père est issu d'un autre temps. C'est à nous de faire bouger les lignes, j'crois bien qu'elles ont suffisamment combattu. Quitte à s'égosiller, à faire peur au silence, quitte à lever le poing jusqu'à la contracture. Eh, ils font grave les mecs progressistes. À leur table, il faut voir avec qui ils bouffent. J'ai du mal à aimer les gens, mais par contre, j'm'en tape d'avec qui ils couchent. Puis les bouffons qui se méfient des MeToo. Ferait mieux de regarder leur passé dans les yeux. Ferait mieux d'écouter leur petite sœur quand elle parle. Y'aura aucune égalité dans les cieux. J'aurais sans doute préféré être une fille. Ça m'aurait évité d'avoir tout le temps honte. J'aurais sans doute préféré être loin de vous, même si ça impliquait d'être loin de tout. Je me demande ce que ça fait d'être une fille. Je me demande ce que ça fait d'être une fille. Je me demande ce que ça fait d'être une fille. J'aurais sans doute préféré.
Alors, ces mots font écho à une réalité du milieu que Sheldon connaît de l'intérieur. Il parle de honte d'être un homme, de la honte des personnes de son milieu. C'est aussi parce que si j'ai donné la face, on va dire, la plus claire de la 75e session, qui est quand même un collectif qui a posé son empreinte dans le rap, la face la plus sombre, c'est aussi que dans ce collectif, on a notamment l'homme pâle qui est accusé de viol, enfin, qui était accusé de viol, même si l'affaire a été classée sans suite. Il y a un certain nombre de ces déclarations qui restent très problématiques. On a aussi Nekfeu, qui est une figure incontournable de cette scène, qui est mis en cause pour des violences conjugales, des viols conjugaux. Voilà, c'est deux exemples assez emblématiques de personnes qu'il a côtoyées. Et dans les déclarations qu'il a faites, notamment dans Mosaïque Magazine, ces derniers jours, à l'occasion de la sortie de son album, il pointe clairement du doigt un environnement assez problématique autour de lui sur cette question-là. Ses prises de position, elles sont quand même assez rares et courageuses, surtout pour quelqu'un qui est vraiment de plein pied dans le milieu et entouré de collègues, on va dire, qui ont cette attitude-là. Et je trouve que c'est à saluer, et en même temps ça permet aussi d'avoir cet ancrage et ce témoignage quelque part de l'intérieur d'un artiste qui est au plus près de la parole vraie de ces personnes problématiques, et aussi le fait qu'ils disent ben, je peux plus le cautionner et c'est pas ok, pas juste ne pas avoir ces paroles-là, mais en plus de ça s'y opposer. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, j'invite tous les artistes hommes à se positionner de cette façon-là, parce que ne pas dire est déjà une forme de consentement et d'assentiment à ce genre de choses. En 2026, on ne peut plus se permettre de juste ne rien dire par rapport aux violences faites aux femmes et au sexisme.
juste, moi, si je peux me permettre de rebondir sur tout ça, je suis désolée hein, de ce que je vais dire à l'avance, mais je ne parle pas de lui, hein, je te parle de manière générale, c'est de l'hypocrisie. Parce que les violences faites aux femmes, les viols, les violences conjugales, ce que tu veux, ça existe depuis la nuit des temps. Ça a été ancré dans comment dire,
les mœurs.
Les mœurs, exactement. Je sais pas, on prend juste Claude François, on en parle ou on n'en parle pas tomber, juste ça, par exemple, si on, qui n'est pas issu de la culture hip-hop, et on a tellement d'exemples. Donc de dire, oui, il ne peut
Jean-Luc
plus...
Lahaye.
Oui, voilà, la liste, elle est longue.
La liste... C'est pas forcément regarde. Seulement dans le hip-hop.
C'est ça, la liste, elle est hyper longue. Donc, de dire qu'il ne cautionne plus ce... Comment dire, le plus me dérange. Je pense qu'à la base, il ne faut pas cautionner tout de suite. Et malheureusement, dans ce milieu-là, dans le hip-hop, là, tu n'en as cité que deux, mais la liste est tellement, mais tellement longue d'artistes reconnus, quelle que soit leur discipline, qui ont violé et qui ne sont pas impactés par leurs actes et que tout leur entourage, tous sans exception, sont au courant et qui sont là encore à l'enjailler ou autre. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu es là à dire oui, non, il ne faut pas, il ne faut pas, alors que tu es à côté du mec qui a violé... telle nana ou qui lui a porté des coups et pourtant t'es à son concert, t'es là, tu lui serres la main, tu comment dire, t'es avec lui, t'es son meilleur. Non, c'est, pour moi c'est de l'hypocrisie, donc c'est très bien ce qu'il fait, mais je pense qu'il y a une voilà, c'est vraiment de l'hypocrisie, c'est dans les mœurs, c'est dans les moi le nombre de nanas qui sont venues me voir, quel que soit leur domaine, pour me raconter des histoires, et j'étais choquée où je tairais le nom de l'artiste, mais une nana qui se retrouve avec un flingue sur la tempe en lui disant « Maintenant, excusez-moi, tu me... Sinon, je te... » Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça parce que... Et le mec, il est producteur, il est machin, il se la raconte. Et ça, c'est des histoires, malheureusement, qui sont trop communes, que ça soit dans le hip-hop ou pas. Et c'est dans tous les domaines. Et les hommes, ils sont pas... je suis désolée, messieurs, hein, mais t'as beaucoup d'hommes, pour pas généraliser.
Mais en tout
cas, j'ai vu son doigt là, qui commençait à dire attends, j'arrive. Heureusement, tous ne sont pas comme ça, et je remercie ceux qui ne sont pas comme ça, mais c'est de l'hypocrisie dans la nature humaine en elle-même. Et comme tu l'as bien souligné, Djoko, les femmes sont les premiers esclaves de l'homme depuis qu'on est arrivé sur Terre, en fait.
D'autres veulent réagir peut-être.
Ouais, moi je veux bien.
Amadi.
On veut tous réagir. Déjà, je fais une petite aparté vite fait parce que tout à l'heure, je me suis un peu perdu dans mes propres paroles. Tu disais vite fait, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'écriture, etc. Si en fait, la littérature fait partie du hip-hop par définition. Puisque le rap, c'est de l'écriture profonde.
De la finesse.
Et donc, sur notre salon, là en particulier, on aura des rappeurs ou ex-rappeurs qui ont écrit des bouquins. Et c'est juste le cheminement logique de quelqu'un qui a commencé à rapper et qui continue à écrire. Et puis, ça se transforme en prose et ça se transforme en littérature. Donc,
Est-ce que tu peux nous citer des exemples, bien sûr, sur
le salon, on aura Matt Murdock. On aura Mystique. Il y aura aussi le rappeur Kondo et OGB de la Mafia Kinfri. Qui ont tous écrit des bouquins et qui seront donc présents samedi au salon.
Et tu oublies Sabine.
Ouais, il y a Sabine aussi, il ne faut pas l'oublier en plus.
Oui,
non,
mais moi j'allais rebondir.
Tranquille, hein,
j'allais rebondir aussi.
Je suis équipé pneu-neige. Ex-danseuse
qui est passée à l'écriture. Qui est passée à l'écriture aussi.
Qui est coach en plus.
Ouais,
mais là on parlait des rappeurs.
Et alors, si tu peux nous parler, parce que du coup ça s'est noyé sur le fait que vous parliez tous les deux en même temps. Donc cette danseuse. Est-ce Sabine. Que tu peux nous redire ?
Alors oui, bien sûr. Donc Sabine est danseuse. Et elle parle de la maladie chronique qui l'a empêchée de poursuivre sa carrière de danseuse. Donc c'est un récit très très intime. Voilà, et donc elle sera présente effectivement parmi la liste de nos auteurs et autrices.
Et tu voulais... Il tue son livre.
Ouais.
Okay.
Et je voulais parler du patriarcat.
Et tu voulais réagir
oui,
sur...
En fait, ce que disait Djoko, c'est que les femmes sont les premières esclaves et les voilà ça je veux dire le hip-hop n'échappe pas à la règle du patriarcat. Voilà, juste ça, c'est que c'est pas la question de reprocher ce qui se passe dans le hip-hop, n'échappe pas à ce qui se passe communément sur la surface de la planète.
Alors, donc, moi,
C'est juste ça.
Par contre, justement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la position de la femme, moi, la base du hip-hop, la femme dans le hip-hop, de base, avait une place importante. Elle avait une place, quand même. On était en train de mettre en place...
Au début du rap français, au début, la femme a toujours été là.
Voilà. Oui, ce qui s'est passé, c'est que comme on vit dans un système, parce qu'il faut remettre les choses en place, qui nourrit ces idées? C'est des personnes qui dirigent cette planète, qui sont le chef d'État. C'est-à-dire que...
C'est clair.
Taubira, comme elle a été traitée, c'est OK, d'accord, elle est black. D'accord. Moi, je préfère, en tant qu'homme...
Les femmes et noires.
Prendre ce qu'elle, voilà, prendre ce qu'elle a pris en tant que femme... noir dans la figure, je préfère en tant que comme le prendre, parce que moi ça me fait pas mal, mais je me mets à la place de cette femme. Je me mets à la place de cette femme et je me dis waouh, c'était comme si c'était ma mère à qui on parlait. Et je veux dire, une femme n'a pas, déjà la maman, qu'est-ce qu'elle apporte? Moi j'ai beaucoup d'amour pour ma mère, hein, donc on rentre dans un sujet un peu particulier, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend du recul sur notre société, comment elle a été construite? Pendant que l'homme allait chasser et puis qu'on buvait des coups pour dire qu'on restait un peu plus tard sur le... On a eu du mal à trouver la viande. Qui a construit ces sociétés dans le village? C'est la femme qui a donné des tâches et qui sont trouvées des tâches. Et je reviens un peu sur une culture un peu anémiste, un peu culturelle, mais c'est des fondamentaux qui sont importants. Aujourd'hui, on nous vend du rêve. On vend du... La petite fille regarde l'autre qui danse à la télé. L'autre qui danse à la télé... Je vais pas prendre, mais... Ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on ne devrait pas nous-mêmes revenir sur nos fondamentaux et les règles qu'on s'est imposées pour mieux réfléchir? Et effectivement, on ne doit pas... bon, il y a des femmes un peu excentriques, voilà, comme il y a des hommes un peu... il y a toujours... voilà. Mais moi, ma dernière limite, si je commence à frapper une femme ou être violent avec une femme, alors là, je ne suis plus personne. C'est pas le même niveau, c'est pas le même level. Je fais 2 mètres, je fais 95 kilos. À part des cris, je vois pas. Et notamment, comme on dit, on est dans l'apaisement, il faut discuter.
Voilà. On voit bien que, voilà, ouais, tous à votre manière, vous l'avez exprimé, comme l'a très bien dit Chouchina. Effectivement, le hip-hop fait partie de la société et il n'est
aime
pas.
Les femmes.
Totalement.
Il n'est pas des, il n'est pas hors société.
Oui, c'est ça en fait.
Il est dans une société qui elle-même est une société patriarcale.
Voilà.
Mais c'est bien que le hip-hop, la culture hip-hop, les membres de la culture hip-hop prennent leur part dans cette prise de conscience.
Ouais, bien sûr.
Et c'est ça que je pense qu'on peut saluer dans la démarche de Sheldon. Tout en gardant effectivement en tête que certains pourraient utiliser ça pour taper
même,
sur le hip-hop.
Mais tu sais, pour répondre à ta question, Sophia, sur la littérature et le hip-hop, après, pour nous, ça a été un moyen de substitution, de faire exister des histoires. Moi, j'ai été déscolarisé très tôt. Tu vois, en sixième, j'allais plus à l'école déjà. Et c'est justement pour revenir, alors, comme tu parlais de Spike Lee tout à l'heure, qui nous a donné en fait l'envie de faire exister des histoires. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a, on va dire, engrainé pour pouvoir écrire et réaliser des histoires en fait, pour raconter des choses. Mais en gros, on n'a pas fait d'école de cinéma. Avant, quand il n'y avait pas l'école de l'Adjli, t'as pas le bac, tu rentres pas dans une école de cinéma.
De Courtrage-Mé.
Oui, voilà. Par exemple, concernant... c'était pas nos milieux à nous en fait. Donc, en fait, la littérature, moi, c'est une femme, justement, Dali Touré, qui m'a accompagné pour justement, mon premier roman. C'est-à-dire que...
Sur la forme d'hypocrisie dont on parle, là, c'est effectivement, ne dis pas. Parce que dans le rap, ta parole, c'est ce que tu dis, comme on dit, la parole, elle a quelque chose. Donc, c'est vrai que si tu parles d'un sujet, et qu'en réalité...
Tu le maîtrises pas.
Tu penses autre chose si tu le maîtrises pas.
Ça va se voir direct.
Voilà.
Ça va se voir direct.
C'est comme le mec qui dit « Ouais, moi je suis pour un mouvement. » Mais au final, dès qu'il y a un problème, il fait un, deux, trois terres, je ne joue plus. Non.
Je vois de quoi tu parles.
Mais alors, est-ce que... Dali Micha Touré, c'est, pour moi, c'est un souvenir assez, assez émouvant parce que.
Big up à elle, franchement.
Elle a écrit, je pense qu'elle a écrit son premier livre à 16 ans.
Ouais.
Je l'avais interviewée à l'époque. J'étais allée à Aulnay-sous-Bois pour l'interviewer et c'est une personne lumineuse qui fait beaucoup. Donc, on lui fait un gros bisou.
On lui fait un grand salam et puis merci à elle en tout
grand
cas.
Grand salam.
Parce que. Des fois, parfois, tu peux faire quelque chose dans la vie, mais c'est une graine que tu sèmes. Mais tu ne sais pas, en fait, comment ça va germer. Et le fait que, justement, elle m'a, on va dire, accompagné dans ce premier ouvrage qui est paru en 2012, qui traite de, qui s'appelle Hacker from Africa, et ben même aussi le fait qu'il y ait le Bige à Saint-Denis, ça nous a beaucoup aidé hein, pour ne pas qu'on vrille, hein.
Mais est-ce que, excuse-moi, Sophia, ouais, est-ce que c'est, parce qu'on est tous, on a tous baigné dans le hip-hop, dans cette culture depuis le début, depuis nos débuts, depuis qu'on a commencé à marcher ou autre, et est-ce que c'est, avec tout ce que j'entends, pour moi, en fait, vous êtes simplement passeur de cette culture, parce que le hip-hop, en fait, n'a jamais attendu qu'on lui ouvre les portes. Pour prendre ce qu'il y a à prendre et à s'installer. Donc, et c'est, moi, c'est une chose que je défends dans ma structure, c'est que pour moi, la culture hip-hop, c'est la culture du tout est possible.
Ouais.
Donc, ça veut dire que Joko, il est là, il a ouvert un lieu qui fait que, bah, on ne veut pas nous donner l'espace public, bah, nous, on va aller le prendre.
C'est ça,
avec vos bouquins, c'est pareil. Avec le salon, c'est exactement la même chose.
Ouais.
En fait, c'est on fait par nous-mêmes et on montre que bah, ce n'est pas parce que vous ne nous avez pas ouvert les portes qu'on ne peut pas le faire. En fait.
Exactement,
Moi, je dirais qu'en fait, au niveau de la culture hip-hop, je l'ai plus connu à travers mon frère jumeau Bilal, qui dansait avec les Actuelles Forces, tout ça, qui s'entraînait avec eux et tout. Mais moi, j'étais plus, on va dire, un petit peu dans le tag et tout. Mais je ne suis pas trop resté, en fait. Mais c'est... En fait, le rap, c'est vraiment un truc... voilà, on a écouté ça tout dès que ça arrivait. dès le premier album de Public Enemy. Et non, puis, même claque, quand on allait à l'école, les cassettes, ça. Radio Nova et tout ça. C'est un truc... ça nous a matrixé tout de suite.
Dans la matrice.
Oui, dans les frères.
Ça y est, là, on est en train de partir en mode nostalgie.
Les nouveaux amis, c'est tout.
Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que tu disais, Souleymane, par rapport au fait que, quelque part, pour toi, cette rencontre, elle a ouvert une porte sur quelque chose de possible, d'envisageable. Et c'est en ce sens-là, je pense que y a... En réfléchissant à l'idée de cette émission, je me disais qu'il y avait quand même quelque part une forme de contradiction. C'est que le hip-hop est parti de ça, d'un mouvement qui voulait prendre, donner de la place. Vous nous donnez pas notre place, mais nous, on la prend. C'est exactement ce que tu décrivais, Shushina. Et finalement, le hip-hop est devenu quelque chose d'un peu omniprésent et un peu partout. Et quelque part, maintenant, il y a des personnes qui... ont récupéré une étiquette hip-hop et qui ferment et qui vont aller mettre une barrière d'entrée aux personnes qui, elles, quelque part, sont issues de la culture.
C'est le capitalisme.
C'est
surtout ce qu'on lui donne à manger parce
c'est
que, effectivement, le hip-hop, en fait, il n'est pas mort. Il y a toujours les acteurs, il y a toujours les personnes qui sont là présentes. Mais quand
on met des stops.
Qu'on ne connaît pas, qu'on se dirige chez un disquaire. Et que chez le disquaire, on nous dit, ben non, en fait, tu veux de la culture pure. Eh ben non, on va pas te donner la culture pure, on va te donner des gens qui vont peut-être t'envoyer autre chose, publiciter autre chose. Et pour ceux qui produisent, qui travaillent durement dans les quartiers, pour sortir un peu de leur une richesse de leur production, ben on veut pas parce qu'on peut, ils sont pas malléables. Ou alors ils vont représenter une vérité qui va déranger. Je dis pas, le rap aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que ben, ça évolue. Le rap, il a évolué. Et que moi, je fais partie des gens, j'ai écouté du Minister Hammer, je buvais du Minister Hammer tous les jours. Et quand on écoute Minister Hammer, ben, Minister Hammer, ils ont fait Brigitte, femme de flic. Voilà ce qui s'est passé. Mais en fait, ils ont dit tout simplement ce qu'on subissait. Comment ça se fait que des gens qui sont censés assurer notre sécurité nous font peur? Tu vois la police, t'as peur.
Tu cours.
C'est-à-dire que parce qu'une fois, deux fois, trois fois, tu te fais attraper. Si le feu, ça brûle, tu mets plus tes mains dans le feu. Faut pas demander pourquoi on court, quand on voit le feu. Ben non, ben le feu, ça brûle. Alors qu'on n'a rien fait, qu'on est citoyen, que même quand on rentre de l'école, juste parce qu'on s'est arrêté 5 minutes à discuter, à rigoler avec un pote, on rigole pas de la bonne manière, on se comporte pas de la bonne manière, on n'a pas marché de la bonne manière. Et on a un... Mais attendez, oh, code noir, on est en train d'en parler, là.
C'est ouf.
Le code noir, attendez, il faut arrêter de abolir. Nous traiter comme du bétail et croire que, de toute façon, ça s'étend, qu'on est... c'est ça, en fait, la force de l'underground et du graffiti, du tag, c'est sa force, à sa résilience, à ne jamais se laisser dominer par cette société qui veut la modeler
à
son image, à une manière que... Non, on n'a pas envie, parce qu'il y a un cœur qui bat, on n'est pas des machines, et que des fois, ben, c'est bien de créer cette... avec la musique, avec la danse, parce qu'on dépense cette énergie, avec l'explosion artistique.
Et alors, au départ, je parlais aussi de rendre ça accessible au public. Du coup, il y a aussi cet aspect de presque de prescription que vous pouvez jouer, finalement, vis-à-vis de personnes qui se rendent dans vos événements. Qui est-ce qui va au salon Auteur en Lumière? Qui est-ce qui se rend sur le spot 13? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les habitués ou les gens que vous voyez? Amadi.
Je commence. Bah, écoute, sur le salon Auteur en Lumière, justement, l'idée, on a une prétention. Là, pour le coup, c'est vrai que bon, on est tous les deux des gros mordus de hip-hop. On est dedans jusqu'au cou, il n'y a pas de souci là-dessus.
Sous les mains et toi.
Ouais. C'est pour ça qu'on a fait cette édition là-dessus. Mais plus largement, nous, on a vraiment l'ambition.
Alors, vous ne le voyez pas, mais il a une casquette rouge et écrit Hip-hop for Rêver.
Ouais.
Et il a un t-shirt rouge qui est assorti à la casquette, rouge et noir. Hip-hop Nation for Palestine.
Exact, exact.
Voilà.
Dédicace à Mehdi Slimani qui avait initié cette démarche.
On avait parlé de leur initiative Hip-hop for Palestine dans Hip-hop 360.
Et du coup, ben, nous, en fait, on a... Alors, pour reparler... Alors là, on parlait beaucoup du hip-hop et tout. Bon, c'est le thème de l'émission. Mais plus largement, la littérature, qui est un outil fantastique, quoi. Je veux dire, les hommes partent, les écrits restent. Depuis toujours et pour toujours. Donc nous, on a vraiment cette vocation de démocratiser, de vulgariser, pas la littérature, parce que c'est pas quelque chose de vulgaire, mais l'accès à la littérature. Et d'en faire quelque chose de ludique, quelque chose d'accessible, du prêt à consommer. Et nous, on veut que ce soit vraiment un circuit court, d'une certaine façon, directement de l'auteur au lecteur, quoi. C'est vraiment cette ambition-là qu'on a. Donc là, c'est un petit peu difficile d'avoir du recul sur la sociologie de notre public, mais c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est vrai qu'on passe beaucoup par nos réseaux à nous, c'est-à-dire des gens qui sont férus de hip-hop, des gens majoritairement des quartiers populaires. On va dire, parce que tout simplement, c'est notre environnement proche et naturel, mais pas que. Tu vois, sur le salon précédent, on était sur la thématique anticoloniale. Donc, encore une fois, il y a des universitaires qui sont venus. Il y avait le docteur Ali Abdelkadir, qui est soudanais, et qui a écrit l'histoire du Soudan sur 2 volumes. Et du coup, c'est aussi l'idée, tu parlais de ton lieu, et tout à l'heure, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est, tu sais, intergénérationnel. Il y a presque plus de lieux intergénérationnels. Quand on parle de la gentrification, une de ces tares de la gentrification, c'est de faire des lieux, des cafés pour bobos, où c'est, grosso modo, faut avoir entre 25 et 50 ans. Et si t'es trop vieux, t'as plus rien à faire dans ces lieux-là. Tu le vois quand il y a les fêtes de quartier. Tu vois, la mairie, elle organise des fêtes de quartier. Et je vois par chez moi, quartier en gentrification, Belleville et ses environs, quoi. Et tu vois, dans les fêtes de quartier organisées par la mairie, t'as des personnes âgées qui sortent, là. Je les ai jamais vues de ma life. Parce qu'en fait, ils ont plus d'endroit dans le quartier pour se poser, tout simplement. Donc, c'est dramatique. Donc, pour répondre directement à ta question... Ça se fait, il y a du bouche à oreille. Et puis, selon les thématiques, eh ben, on a vocation et prétention à agréger de plus en plus de monde et à faire en sorte que des gens qui ne lisent pas forcément naturellement passent dans ces lieux-là, découvrent la littérature par ce biais. Et puis, il y a toujours ce dégoût un petit peu de la littérature subie comme une obligation à l'école. On a tous eu des expériences traumatiques avec des profs ou le système qui nous a imposé des classiques, par exemple.
Avec des livres qui ne nous intéressaient pas.
Ouais, c'est ça, c'est
disons qu'il y a un âge pour tout. Et alors, on a eu des profs fantastiques, mais on a eu aussi des profs catastrophiques, quoi. Ah, moi, c'est mon cas, j'en ai eu des profs catastrophiques.
C'est quoi les cours de musique? Ah, pareil, on pensait qu'il y avait des guitares.
Horrible. Moi, je suis fils d'enseignante, ma mère est enseignante.
En trois morceaux.
Mais je me rappelle, c'est un truc de ouf. Et ouais, la musique, comme tu dis, moi, j'ai des profs de musique à me dégoûter, à donner envie de devenir sourd, en vérité.
Donc, en somme, même si effectivement, vous ne pouvez pas par avance dire qui se rendra à votre salon ce week-end, en tout cas, vous vous affichez cette volonté d'avoir
le plus large possible.
D'avoir un public le plus large possible et de faire en sorte que des personnes qui sont éloignées de la lecture s'en rapprochent par le biais de sujets qui leur parlent.
C'est pour ça qu'on fait des salons thématiques.
Ouais, exactement. Et puis aussi, pour ce que disaient Joko et Will, c'est que parfois, en gros, ben on va nous présenter la littérature d'une certaine manière. Ça veut dire, par exemple, des livres, mais qui ne vont pas nous parler. Alors que les auteurs qu'on reçoit, pareil, ils se livrent, ils se racontent. Nous, Ministère Hammer, il nous a permis de découvrir France Fanon, des grands auteurs. Et après, quand on l'a découvert, on était un petit peu aussi jeunes aussi pour tout comprendre, puisqu'on avait arrêté l'école très, très tôt. Donc, c'était très soutenu au niveau du... Mais par la suite, en découvrant ces classiques-là, justement, on ramène en fait des auteurs avec le fond et la forme.
Et puis tout à l'heure, tu parlais de petites graines que tu sèmes. C'est vrai que Ministère Amer, mais je pense aussi à Assassin quand tu dis ça. Je pense aussi à Rossé, à d'autres qui, comme ça, semaient des graines.
La rumeur aussi.
La rumeur, effectivement. C'est des choses. T'as un peu des références comme ça que t'as entendues dans des morceaux. Et puis après, quand tu t'es un peu plus âgé et que t'as peut-être plus de bagages pour pouvoir comprendre les écrits, ça te permet plus facilement de t'en emparer. Mais je voulais poser du coup la même question à Will et Joko sur le spot 13. Est-ce qu'on a un public qui est varié? Est-ce que c'est une volonté que vous avez ou est-ce que c'est compliqué de pouvoir faire en sorte d'amener du monde? Il y a Will qui me regarde avec...
J'attends la fin de la phrase pour comprendre où tu veux en venir.
Où je veux en venir, c'est qui va au spot 13?
Bah, tout le monde.
Qui sont ces gens qui
C'est un endroit assez cosmopolite. On se donne pas de définition particulière ou de profil. Le seul truc qu'on a dit, c'est qu'on ne mettait pas en avant quelqu'un parce qu'il était déjà mis en avant, parce qu'il était déjà sélectionné dans d'autres... pour d'autres titres ou parce qu'il était déjà mis en avant, on ne va pas lui sortir le tapis rouge. Sinon, tout le monde est sélectionné pour venir chez nous. Il n'y a aucune différence. Si la personne, on sent que la personne est dans le partage, on va lui laisser champ libre.
Mais peut-être qu'effectivement, ma question n'était pas assez circonscrite et claire. Moi, c'est plus le...
punchline ce soir. Punchline. On a parlé de...
Pardon. Je vais essayer de parler, de faire une question pour un sociologue. Donc, je reformule ma question pour un universitaire de haut rang. La question, c'était plus par rapport au public, parce que comme l'exprimait Amadi tout à l'heure, il y a quand même cette volonté de faire en sorte d'amener sur leur événement des gens qui sont éloignés de la littérature, d'avoir plutôt un public intergénérationnel. Est-ce que de par certains choix que vous faites sur les événements, peut-être sur les horaires des événements, sur ce que vous mettez en place, etc., est-ce qu'il y a une volonté d'ouvrir un public plus large que les graffeurs quarantenaires qui ont cartonné les métros parisiens dans les années 80?
Déjà l'année dernière, on a eu des concerts punk,
du reggae,
on va avoir du caribéen, on va avoir aussi de la musique classique. On va avoir
de l'électro.
Et justement, quand on parle d'underground, quand on parle de hip-hop, on oublie que...
Connecté avec tout.
Qu'en fait, du jazz, si on remonte, le blues, si on remonte, tout ce cheminement qui a ramené jusqu'au hip-hop. La musique, même la techno.
On t'écoute les samples de jazz sur Pit Rock.
Et donc, il faut qu'on ait des acteurs, en fait... pas forcément des ponts, comme il l'a dit. Pas des stars, mais quelqu'un qui s'initie
et qui bah, va ramener une différence, mais aussi va permettre...
une certaine énergie.
Ouais, une certaine énergie, d'apprendre à connaître les autres, de voir une ambiance. Bah, quand il y a les punks qui viennent et qui font leur pogo, moi j'ai déjà pogoté, je suis assez technique musicalement. Et puis moi j'ai grandi, moi j'ai connu mes parents, c'était des vinyles à l'époque. J'ai vu le hip-hop est arrivé, mes parents, tous les samedis, c'était Genesis, Bob Marley, il y avait tous les ABBA, tout ça, parce que c'était leur génération. Et après, le hip-hop est arrivé parce qu'il y avait les grands, moi j'ai vu les grands qui breakaient sur leur carton. Ça crée ça sap. Il y avait le style. Nous, on regardait les grands. Mes premières roues crypto.
Les
Kawaii. Les roues. Ça y est, on est reparti sur
les roues transparentes. J'ai regardé comme ça. Mais les premiers Marvel. Voilà. Il y avait des cette richesse culturelle.
Estrange.
Et l'estrange. Et en fait, le hip-hop, c'est une porte ouverte
c'est
à la
par
créativité.
C'est quelque chose de très ouvert voilà. Sur les autres.
Voilà, c'est la créativité. Il y a les punks, il y a les toughers, il y a les trucs. Il faut apprendre à vivre ensemble, sans le débordement qu'on a aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, on veut faire de la musique électro, mais on fait de la musique électro, mais on peut pas faire on peut pas aller trop loin dans la musique électronique, parce que ben, parfois, on a une clientèle un peu particulière, parce que faute à ces sociétés, ben, voilà, il y en a plein qui sont sous cacheton. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une idée où on peut mettre les choses en place, au lieu de taper sur les jeunes pour leur dire « fais pas ci là, fais pas ci là, fais pas ci là », attendez, ils préfèrent avoir la colline que le spot 13. Un espace où il n'y a rien à faire, où on peut mettre des choses en place, où tout le monde, on vient, on partage dans la confiance, on crée quelque chose. Mais voilà, c'est... spot 13, c'est une plateforme où on... avec plein d'expériences, et on tente à donner sa chance à tout le monde.
Merci Djoko. On va peut-être faire un dernier mot de fin. Question, qu'est-ce qui manque pour que ce type d'initiative se multiplie ?
Des politiques de la ville déjà. L'attribution des espaces. Voilà, c'est pas, je veux dire que t'as que du droit privé, t'as que des espaces de consommation, de proposition de produits finis. Voilà, tout à l'heure, je parlais des bars. Moi, je viens de Belleville. C'est que des bars fashion style qui s'enchaînent sur les c'est des volontés politiques d'avoir des endroits où on peut faire de la mixité sociale, de la mixité générationnelle, où on met la culture en exergue, qu'on puisse permettre aux gens de s'accaparer la question culturelle et de créer de la cohésion et du partage, comme disait Djoko. C'est d'abord des volontés politiques. Après, nous, on est là. On a la niaque, on va y aller, on va forcer les portes, on va... Voilà, quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser le carreau, comme disait l'autre. Mais les volontés politiques, voilà, c'est trop de blabla. Et les municipalités, ils ont une grande, grande, grande responsabilité par rapport à ça. Moi, tu parlais, voilà, les quartiers qui se boboïsent, les quartiers en plastique. Voilà, on va pas faire de détails, mais...
Après, tu vois, je vais dire, c'est vrai qu'on attend beaucoup des institutions, mais je pense qu'il faut arrêter d'attendre. Faut arrêter d'attendre, mais il faut qu'on arrive à... En fait, je pense qu'il manque... des connexions. On n'est pas assez connectés. On fait tous des trucs de notre côté. On pourrait travailler tous ensemble. Avancer dans la même direction. Mais en fait, on est déconnectés les uns des autres. On ne sait pas que l'autre il fait ça. On ne sait pas que l'autre il serait possible...
Il y a un souci d'ego aussi. Hein. Attention. Souci d'ego. Parce que si on voulait vraiment se connecter et faire les choses entre nous, les choses se feraient réellement. Mais tu as un énorme souci d'ego. Quelle que soit la discipline. C'est la nature humaine. Ouais, j'allais y venir. C'est pas que dans le hip-hop. Parce que des gens qui font, il y en a. Quel que soit ton quartier, quelle que soit ta banlieue, il y en a qui font. Mais le problème, c'est qu'ils veulent avoir la lumière sur eux et pas sur un tel ou pas sur un tel. Donc, c'est un peu... moi, je suis d'accord. Hein, je suis exactement dans le même, comment dire... fonctionnement.
État d'esprit.
Mais malheureusement, l'ego des uns, c'est... Des fois, tu te dis, mais est-ce que je suis utopiste? Est-ce que je suis dans la réalité des choses? Donc, à un moment donné, tu vas être là, tu vas vouloir forcer des portes, tu vas y aller. Puis, à un moment donné, on va être là, on va ouvrir la porte. Puis, d'un seul coup, tu as celui d'à côté qui aura pompé toutes tes idées, qui va aller te mettre le couteau dans le dos. Et juste parce qu'il est bien avec le politicien à droite ou à gauche, etc. Sure. Et il va aller, excusez-moi du terme, te... qui voilà proprement
Choufina, soit tu le dis en vrai,
et va te niquer.
proprement. Ouais, donc tu vois, voilà, j'ai... non, mais c'est une question d'ego mal placé. Donc, et malheureusement, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le hip-hop, une des valeurs du hip-hop, c'est le partage et l'unité. Mmh. Et malheureusement, on est dans une société qui évolue et qui, malgré que tout soit ouvert et open à tout le monde, est très individualiste.
L'individualisme, ouais.
Souleymane, moi, je veux rajouter quelque chose.
T'as vu, avec rien, on a toujours eu l'habitude de faire des choses. Et on n'a jamais attendu, parce qu'on sait très bien que c'est difficile d'avoir. Et donc, en gros, et quand tu regardes bien, même avec rien du tout, bah c'est là que l'art, en fait, il se développe. Parce qu'il faut trouver, en fait, des alternatives. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec à Bondy, avec quand on a fait le film Warning, qui traite du harcèlement, bah, ça a été, on va dire, que des connexions pour la cité éducative de Bondy, pour pouvoir faire Warning. Et après, on a ramené Samina Seri, puis ça s'est fait comme ça. Mais c'est beaucoup le réseau et les points d'ancrage. Et ce que disait
Chouchina,
c'est vrai aussi, c'est qu'en en fait, il faut mettre de l'ego de côté. C'est-à-dire que les gens qui ont trop d'ego, ben, vas-y, on ne les calcule pas. Et après, nous, on est dans le partage. On a grandi dans ça. On mange dans des plats, on ne mange pas dans des assiettes. Voilà, on a l'habitude.
Ah, et puis, de toute façon.
Will, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose?
Non, j'aimais bien.
tu valides?
Ouais, je valide.
Ok,
totalement.
Très bien. Donc, plus de volonté politique,
entre autres, pour les espaces, t'as vu? Parce que ouais, voilà.
De volonté politique
là,
pour les espaces.
Là, l'endroit où on va faire notre salon, malheureusement, il va fermer en novembre. Et tu vois, dans Paris,
c'est le bar à nous, non?
Ouais, le bar à nous.
Ouais, le bar à nous, dans 19.
Ça va fermer.
En novembre, tu m'adresses. Bon. Mais en même temps, on peut
donc
pas
je synthétise un petit peu parce qu'on va passer à l'agenda. Mais donc, plus de volonté politique pour ouvrir des espaces, ouais. Plus de connexion, plus de mise en relation en laissant l'ego de côté. Et aussi la créativité, mais toujours et encore, quelque part, parce que, comme tu le disais, on l'a toujours eu, de la créativité pour pouvoir, à partir de rien, faire tout. Pour nous,
c'est pour ça que,
pour tous et pour toutes.
Sophia, c'est pour ça que nous, en fait, on a fait un magazine qui s'appelle L'Asphalte, où justement, on référencie en fait les acteurs et on visibilise aussi surtout le travail des associations de quartier, parce que c'est eux qui déminent vraiment socialement, on va dire, tout le mal-être qu'il peut y avoir, parce que une cité où il n'y a pas d'endroit où cadrer les jeunes, c'est compliqué.
Tu peux redonner le nom de la...
Alors, le magazine, il va s'appeler L'Asphalte. Là, dans le premier, on va pouvoir retrouver justement l'événement Auteurs en Lumière. Après, on retrouvera beaucoup d'auteurs. On retrouvera aussi beaucoup d'auteurs africains, puisqu'on ne s'arrête pas qu'à la Seine-Saint-Denis ou l'Île-de-France. On recevra justement Souyouba Traoré, qui a écrit un livre qui s'appelle Petit Modèle, qui dénonce en fait l'esclavage domestique. Et puis
ok, voilà, bah de toute façon on mettra les voilà, on mettra les liens, tout ça.
On va
faire place maintenant à l'agenda.
Yeah.
C'est l'heure de l'agenda.
Bon, moi je remplace Fiona ce soir. Malheureusement, elle n'a pas pu venir, donc je vais essayer d'être très rapide. Le mois de juin est très riche en événements, très 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 riche, sans compter la fête de la musique. Je vais vous donner 2-3 trucs. Alors, on parlait de la Juste Debout, donc le vendredi 5 juin à 19h, donc spécial débat sur différents thématiques, l'histoire ou mythe au niveau de la section C, quels sont les crews de référence à Paris, existe-t-il des liens avec la nouvelle génération, de plus en plus de crews féminins, nouvelles tendances ou suite logique. Donc ça, c'est à la Juste Debout, c'est gratuit et ouvert au public, c'est dans le 20e, allez vous renseigner, allez-y. Donc ça, c'est le 5 juin. Le 6 juin, je voulais parler d'une soirée showcase qui a lieu à Épinay-sur-Seine, c'est On The Seine. Donc c'est vraiment très hétéroclite, c'est la nouvelle scène émergente, tout ce qui est R&B et puis ce qu'on peut appeler, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, pop urbaine ou autre, il y a tellement de termes, mais je n'aime pas en plus ce terme-là non plus. Enfin voilà, renseignez-vous, c'est au pôle musical d'Orgemonde, ça s'appelle On The Seine, c'est à partir des 19h30. Ensuite, il y a le 11 juin, il y a une conférence, pareil, ça s'appelle le Boulevard Fest. C'est une conférence sur le rap et le beatmaking au niveau de l'indépendance. C'est de 18h30 à 19h30, c'est le 11 juin. C'est sur le coup à exactement à main d'œuvre, au studio main d'œuvre à Saint-Ouen. Attention, les places sont limitées, donc allez-y, il n'y a pas beaucoup de places. C'est intéressant pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Après, on va parler un peu du festival 100% R&B qui a lieu le 13 et 14 juin à La Place. Pareil, allez-y, parce que le R&B, qu'on le veuille pas, il fait partie de la culture hip-hop. Non. Et c'en est même un élément clé. Ensuite, il y a le Super MC Contest au plan Harris-Orangis. Donc, le vendredi 19 juin, on y retrouve quand même Fanny Polly. Oui, je veux parler des femmes en premier.
Il y a Greg Frit aussi.
Et Mo Thug qui y seront. Donc, c'est pareil, c'est à partir de 19h30. L'entrée est payante, mais c'est seulement 5 euros. Allez-y, je sais que Harris-Orangis, c'est un peu loin, mais ça vaut le coup.
C'est un très bel espace.
C'est ça. Et dernier petit événement, c'est le 19 juin, c'est une rencontre et présentation du livre de Nasty.
Oui.
Nasty, ce n'était qu'un rêve, c'est à 18h30 à Bagnolet. C'est pareil, je vous invite à y aller. Surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur cette personne qui est un grand de cette culture hip-hop française.
Grand monsieur, c'est Nasty. Ça.
Voilà, donc je suis allée court et je place le mien d'événement.
J'allais le faire. Mais Chouchina, tu vas avoir une actu chargée toi aussi.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu fais le 13 juin?
Alors déjà, avant le 13 juin, je suis ce week-end au Funk Is Not a Joke Battle de danse hip-hop. Donc là, j'ai un stand merch avec ma marque par rapport à Women Like Hip-Hop. Donc si vous voulez venir choper vos pièces, n'hésitez pas. Je suis aussi le 7 juin au Hip-Hop Market à la Javel. Pareil, aussi un stand merch où pour venir choper vos pièces si vous n'avez pas pu venir dimanche, parce que je sais que ce week-end, il est aussi très chargé en événements sur Paris. Il y a énormément de choses. Et le 13 juin, je fais donc le spectacle de restitution de mes élèves, parce que dans Women Like Hip Hop, on a une school. Dans cette school, on donne des cours DJ, qui est multigénérationnel, qui est très ouvert à tous. On a autant des adultes que des jeunes, hommes, femmes de tout horizon qui se sont initiés au DJing et sur le coup, c'est leur spectacle. Donc, ils vont passer chacun leur tour, ils vont vous montrer leur univers qui est assez différent et assez hétéroclite et c'est ça qui est bien. Et il y aura aussi un ou voire deux artistes qui viendront et les accompagner sur scène. C'est donc le 13 juin, c'est à la ligne 13, c'est à Saint-Denis, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est en après-midi, c'est de 14h à 17h. Parce qu'on n'a pas trop voulu leur mettre la pression en leur mettant le soir. Ça va être leur première... Oh non, je dis des bêtises. Deuxième scène. Effectivement, elle me regarde, Sophie, en disant « Bah non, tu t'es trompée !» Ouais. Donc sur le coup, voilà. Non, c'est leur deuxième scène où ils montent sur scène. Donc je vous invite à venir et de leur donner de la force. Voilà.
Merci Chouchina pour cet agenda au pas de charge et oui. Aussi pour avoir... pour avoir su prendre au pied levé la place de Fiona qu'on embrasse, parce que bon, avec les chaleurs elle se sentait pas très bien et on espère que ça va aller. Ah oui, je voulais juste rajouter au Kilowatt le 12 juin au Kilowatt Youssoupha avec la brigade en première partie.
C'est ça.
Le Kilowatt à Vitry. Très, très beau lieu aussi de concert. Voilà.
Et renseignez-vous pour les fêtes de la musique. Il y en a partout aussi.
Oui, bien sûr, comme chaque année, la fête de la musique. Et on se retrouve au mois de juin, le 25 juin de mémoire, pour la dernière de la saison. De cette première saison de Hip Hop 360. On a hâte de vous retrouver. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on espère que nos invités aussi ont passé un bon moment.
C'était cool. Franchement, c'était
merci, merci beaucoup
merci pour
l'accueil.
Pour l'invite.
Super
pour
l'invite.
Ouais. Génial.
Merci à vous d'être venus et merci à Léo pour la technique.
Bye bye.
Plaisir.
360, l'émission qui fait le tour de la question.